19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Si ça s'améliore, on pourrait être debout. Si ça s'améliore, on pourrait être 6 000, 7 000, 8 000. Voilà. Il y aura des festivals d'été. Je trouve que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà.
Et c'est effectivement la bonne nouvelle du jour. On pourra assister à des festivals cet été, à condition de respecter des règles très strictes. On vous dit tout dès le début de ce journal.
La durée d'isolement des patients testés positifs au Covid passera de 7 à 10 jours à partir de lundi. C'est ce qu'annonce ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Plus que quelques heures avant le moment fatidique, Persévérance, le robot de la NASA doit atterrir ce soir sur Mars pour une mission capitale.
Puisqu'il va peut-être pouvoir nous dire si la planète rouge a été habitée.
Au sommaire également, France-Algérie, le rapport de Benjamin Stora est en deçà des attentes, dit un porte-parole du gouvernement algérien. Il nie tous les faits historiques.
Et on y reviendra avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François.
La mise en garde de l'UFC Que Choisir aujourd'hui aux amateurs de tatouages. 75% des encres utilisées en France seraient toxiques. Et puis la Ligue Europa de foot, Lille en pleine forme en ce moment, prête à se frotter à l'Ajax Amsterdam.
La météo, Anissa Haddadi, les températures grimpent doucement demain dans l'après-midi.
Oui, nous aurons jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest. Attention, hein, demain matin, nous aurons un petit retour des valeurs négatives sur la moitié nord. Mais dans l'après-midi, grâce au soleil, les températures vont remonter puisque c'est le retour des éclaircies.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'était un rendez-vous très attendu par les festivaliers et par tous les amateurs de musique, celui des professionnels du secteur, avec leur ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et à la sortie, eh bien, c'est un ouf de soulagement.
Oui, parce que oui, Angélique Châtelier, on va pouvoir assister à des festivals cet été incroyables.
Alors déjà, évidemment, si la situation sanitaire le permet, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri de rien, mais... A priori, ça serait possible sous plusieurs conditions. Les festivals devront travailler sur une formule de 5000 spectateurs maximum et tous devront être assis. Il faut bien comprendre que c'est une base de travail pour que les professionnels avancent. Gérard Pont, directeur des Francopholies de La Rochelle, était présent à cette réunion. Pour lui, c'est mieux que rien et il est optimiste.
En fonction de l'évolution de la pandémie, si ça s'améliore, on pourrait être debout. Si ça s'améliore, on pourrait être 6000, 7000, 8000. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il y aura des festivals d'été. Alors après, évidemment, nous sommes dans une configuration particulière en francophonie puisque tous les artistes habitent ici. Hein, donc il n'y a pas d'artistes internationaux. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, je vous confirme qu'il y aura les Francopholies de La Rochelle cet été.
Alors il y a ceux qui ne sont pas tous ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui avaient déjà commencé à travailler sur une telle formule, comme les Vieilles Charrues, le Printemps de Bourges. Mais alors pour d'autres, c'est quand même plus difficile de l'envisager. Les festivals de musique électro, par exemple. Ou alors 60 000 personnes ont déjà acheté leur billet pour aller au Hellfest mi-juin. Et puis comme d'autres, hein, les artistes programmés ne sont pas tous français. Alors pourront-ils venir? Il y a encore quelques interrogations. Mais la ministre a prévu de revoir les professionnels des festivals tous les mois.
Merci Angèle Châtelier. Notez qu'Émilie Mazoyer reçoit ce soir dans Musique Jérôme Tréhorel, le patron des Vieilles Charrues, qui assistait donc à cette rencontre avec la ministre de la Culture.
Le point presse du jour d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, face à une situation qui reste préoccupante, notamment du fait des variants. Alors pas de nouvelles restrictions annoncées aujourd'hui, mais un durcissement des conditions d'isolement pour les patients testés positifs.
Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui indique par ailleurs que plus de 75% des personnes âgées en EHPAD ont reçu au moins une première dose de vaccin.
On a tous, au fond de nous, une certaine fascination pour l'espace. Et ce soir, dans l'espace, loin, très loin, au-dessus de nos têtes, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, ça se passera aux alentours de 22h. La planète Terre aura les yeux rivés sur la planète Mars, avec l'espoir que le petit robot envoyé par la NASA réussisse son atterrissage.
Atterrissage qui d'ailleurs est un défi. Hein. Les minutes qui précèdent font frémir les scientifiques qui appellent ça les 7 minutes de terreur. Étape périlleuse, comme le confirme Francis Rocard. Il est astrophysicien au CNES, le Centre National d'études spatiales.
Ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est-à-dire que tout se joue en 7 minutes, tout est automatique. Vous savez, vous arrivez à 20 000 km/h et il faut se poser à 1 ou 2 km/h. Donc il faut réduire la vitesse coûte que coûte. Et donc tout doit se dérouler sans délai, sans aucun bug informatique, par exemple. Sinon, c'est le crash. Les cas où ça s'est crashé sont des cas très. À chaque fois, c'est un petit pépin dans un coin. Schiaparelli, par exemple, en 2016, a échoué parce que le logiciel a cru qu'il avait atterri alors qu'il n'avait pas atterri. Vous voyez, c'est une erreur de logiciel. Et ça a provoqué le crash.
Francis Rocard du CNES avec l'Or d'Autriche.
Et ce soir, Julien Pierce vous fera vivre cet événement en direct dans le Grand Journal de la Nuit sur Europe 1.
Dans l'actualité également, ils voltent aussi, mais beaucoup moins haut. Beaucoup d'avions ont été, vous le savez, cloués au sol par la crise sanitaire. Et à l'heure des comptes, l'année 2020 a été catastrophique pour Air France KLM. On peut même parler d'année noire, très noire. 7,1 milliards d'euros de pertes, c'est un chiffre sans précédent.
19h05, pour la première fois, Alger s'exprime officiellement sur le rapport de l'historien français Benjamin Stora, rapport sur la réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales, bien sûr, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Pour le gouvernement algérien, clairement, le compte n'y est pas. Son porte-parole affirme qu'on est très en deçà des attentes.
Oui, alors ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment surprenant, puisque ce qu'attend le gouvernement algérien, ce n'est pas la recherche d'une vérité historique par nature complexe et nuancée, c'est la reconnaissance par la France d'une responsabilité exclusive dans le conflit qu'il a opposé à l'Algérie, qui devrait pour eux se traduire par des excuses officielles suivies de dédommagements. Or, ce n'était pas du tout l'intention d'Emmanuel Macron lorsqu'il a commandé ce rapport à Benjamin Stora. Au contraire, son objectif, c'était de chercher à apaiser les relations entre les deux pays, en se disant que finalement, bah, après presque 60 ans à la fin de la guerre d'Algérie, il était peut-être temps d'aborder le sujet de manière rationnelle, historique, pour réconcilier toutes les mémoires, que ce soit celle des résistants algériens, bien sûr, mais aussi celle des anciens combattants, des harkis, des pieds noirs, sur la base de faits établis, sans d'ailleurs nier les responsabilités de chacun, dont celle de la France, d'autant qu'à titre personnel, quand il était candidat, le président avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Seulement, c'était sans compter avec un obstacle de taille qui est le récit officiel du régime algérien construit depuis l'indépendance de 62 pour 1962 pour légitimer la prise de pouvoir par les militaires à la suite d'un coup d'État.
Que le gouvernement algérien ne veut donc pas voir remise en cause par des travaux historiques.
Et exactement, parce que sa version expurgée de l'histoire sert encore aujourd'hui à justifier la mainmise des militaires sur tous les leviers de la vie publique, que ce soit politique ou économique. Et donc les généraux algériens ne sont pas du tout prêts à se livrer à un exercice de transparence qui saperait les bases de leur vérité officielle au nom d'un pseudo-impératif de réconciliation des mémoires, et surtout pas au moment où ils ont entrepris d'écraser le mouvement de revendication de la jeunesse, le Hirak, qui depuis 2 ans maintenant exige la démocratisation dont l'Algérie aurait finalement bien besoin.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et on en vient à cette étude inquiétante de l'association UFC Que Choisir. Elle affirme que 75% des encres utilisées pour les tatouages présentent un risque sanitaire grave. Alors on savait que les tatouages n'étaient pas sans danger, mais on se méfiait plutôt des aiguilles ou de l'hygiène dans les salons de tatouage. En réalité, apparemment, le plus inquiétant, c'est le produit qui est injecté et qui souvent ne répond pas aux normes sanitaires, comme l'explique Gaëtan Dupin. Il est juriste à l'UFC Que Choisir.
Les résultats de nos tests montrent clairement qu'il y a des risques pour tous les types de couleurs. Un peu moins pour l'encre noire qui est la plus utilisée. Par contre, pour les tatouages de couleurs, que ce soit le rouge, le vert ou le jaune, on a des colorants interdits, on a des produits bien identifiés comme cancérigènes qui sont interdits à des seuils plus ou moins élevés. Il y a des réglementations sur le tatouage, mais parmi ces produits qui sont accessibles sur le marché français, on a clairement des lots de produits qui ne respectent pas les différents seuils. Et au nom du principe de précaution, nous souhaitons que les autorités en la matière procèdent au retrait et au rappel des produits dangereux que nous avons identifiés. Le tatouage s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. À peu près un tiers des consommateurs entre 18 et 35 ans se sont fait tatouer. Ils doivent se rendre compte que se faire tatouer n'est pas neutre sur le plan sanitaire.
Gaëtan Dupin de l'UFC Que Choisir, rejoint pour Europe 1 par Zoé Pallier. La ville de Paris remporte une importante victoire face aux plateformes de location comme Airbnb. La Cour de cassation a en effet jugé sa réglementation conforme au droit européen, proportionnée et justifiée pour lutter contre la pénurie de logements destinés à la location.
Cette décision va permettre à la capitale de reprendre les poursuites judiciaires qui étaient suspendues dans l'attente de cette clarification.
Poursuites contre 420 bailleurs auxquels la mairie de Paris réclame en moyenne 50 000 euros, soit jusqu'à quand même 21 millions d'euros d'amende potentielle. La chaîne TF1 écarte officiellement l'hypothèse d'une cyberattaque, mais n'en dit pas plus sur l'origine de la panne qui a empêché à la mi-journée la diffusion de son JT, une première impossible de diffuser les reportages.
Le foot maintenant, le leader provisoire du championnat de France, Lille, accueille ce soir l'Ajax d'Amsterdam.
Pour les 16e de finale aller de la Ligue Europa, un match de prestige pour des Lillois très convaincants cette saison et qui vont tenter de poursuivre sur cette lancée, Jean-François Pérez.
Oui, et cette réussite porte la patte d'un entraîneur, Christophe Galtier, arrivé il y a 4 ans pour sauver le club de la relégation. Il réussit depuis des prouesses. La première place de Ligue 1, donc, malgré des bouleversements à la tête du club et de fréquents changements de joueurs. Un style de jeu plaisant, aussi direct que ses conférences de presse, notamment quand il s'agit de définir les priorités de la saison. Et ce match contre l'Ajax en fait clairement partie.
L'Europa League est une compétition importante. On est sur une bonne dynamique. On fera tout pour se qualifier. Si on a le bonheur de se qualifier, ben, le tour d'après, on mettra tout en œuvre pour se qualifier encore.
Voilà, ces retrouvailles face à l'Ajax seront l'occasion de prendre une belle revanche sur les Néerlandais. La saison passée en Ligue des Champions, Galtier et les siens avaient subi 2 échecs cuisants, 2-0 et 3-0. Depuis, Lille a grandi et ce match entre deux équipes leaders de leur championnat devrait être bien plus équilibré cette fois. Mission première, préserver les chances de qualification pour les huitièmes de finale avant le match retour à Amsterdam la semaine prochaine.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, et c'est un match que l'on suivra ce soir en fil rouge grâce à Sébastien Boé.
Merci, c'était le journal d'Isabelle Millet. La météo avec Anissa Haddadi. Attention aux nombreux brouillards demain matin,
oui,
Anissa.
Les nuages bas seront très nombreux, Julien, demain matin, avec la formation de brumes et de brouillards sur toutes les régions. En fait, tout le monde est concerné par ces brouillards, sauf la façade est. Donc de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur, là vous êtes tranquille, le ciel sera plutôt clair demain matin. Ailleurs, il va falloir être prudent si vous prenez la route. Et puis, dans certaines régions, comme par exemple l'Île-de-France, le centre-Val de Loire ou encore le Val-de-Saône, et bien dans ces régions, les brouillards auront du mal à se dissiper au fil des heures et le ciel sera encore pas mal chargé dans l'après-midi. Sur le bord de la Méditerranée, là, nous aurons des entrées maritimes qui apportent pas mal de nuages et de l'humidité, notamment sur les Cévennes. En Bretagne et sur le Cotentin, quelques petites gouttes sont possibles et partout ailleurs, demain après-midi, c'est le retour des éclaircies. Ça, ça fait du bien puisque le soleil revient et en plus, il va faire grimper les températures. Demain matin, quelques petites gelées sur la moitié nord. Et puis dans l'après-midi, ça sera très doux, 10 à 22 degrés, 10 pour Lille, 13 à Paris et 21 degrés à Mont-de-Marsan ou encore 22 pour Tarbes et Pau.
Merci Anissa pour ce point météo. On vous retrouve demain dans le 18-20. 19h12, dans quelques secondes, on sera avec nos invités pour le grand débat. On parlera de ces attaques numériques qui se poursuivent un peu partout en France et qui inquiètent les autorités. D'abord, notre invité de la carte blanche avec ce soir Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, pour cette carte blanche, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est avec nous pour un coup de colère contre les géants de la distribution, alors que se terminent dans quelques jours les négociations sur les prix entre distributeurs et producteurs. Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
Pourquoi cette colère ?
Parce que les négociations commerciales qui ont lieu chaque année et qui se bouclent fin février ne se passent pas bien. Nous savons qu'il y a eu une année compliquée avec le confinement, la perte de débouchés. Et donc les agriculteurs et les industriels ont eu une année difficile, des pertes de marché, donc des revenus en difficulté. Et les distributeurs s'étaient engagés à jouer le jeu, eux qui ont bénéficié à plein de la fermeture des restaurants, puisque leur chiffre d'affaires a augmenté de 6%, oui, voire plus. Et ils ne sont pas solidaires du tout. Aujourd'hui, ils proposent des baisses de prix, alors que nous avons fait plein d'efforts à la fois dans tous les domaines. Mmh. Et eux, aujourd'hui, nous proposent des baisses de prix. Ce n'est pas acceptable.
Dans un message ce matin sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous a fait réagir, Christiane Lambert, vous attaquez directement l'enseigne Leclerc. Et vous dites, il fait sa pub pour le rôti de porc à 3,28 euros le kilo. À ce prix, ce n'est pas une promotion, c'est une braderie. Le travail des éleveurs, dites-vous, est bafoué. C'est un message fort, car c'est la première fois que vous attaquez nommément et directement une enseigne.
Oui, parce que Michel-Édouard Leclerc est le leader de la distribution en France. C'est celui qui veut capter encore des parts de marché. Il fait le pari de la mort d'un certain nombre de ses concurrents pour être encore plus fort. Mmh. Et il a donc une responsabilité particulière dans la danse qui est menée en ce moment. Et proposer du rôti de porc à 3,28 euros le kilo, alors que tous les jours on demande des efforts aux agriculteurs pour le bien-être animal, pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité sanitaire, pour pas de médicaments, etc. C'est juste pas possible d'avoir des meilleures conditions de production et des, oui, prix toujours plus bas. Et ça, c'est une responsabilité très forte de Leclerc.
Quel serait le bon prix, pour l'exemple que vous prenez, Christiane Lambert, pour le rôti de porc au kilo ?
Le rôti de porc, quand il n'est pas en promotion, il est aux alentours de 6 euros, 6,50 euros, voire 7 euros. Et quand Leclerc le propose à 3,23 euros et qu'on entend ça le matin sur les grandes ondes, franchement, c'est insultant pour le travail des agriculteurs. Bien. Mais c'est tout au long de l'année que ces pratiques ont lieu. Donc là, il y a un zoom, parce que c'est le moment des négociations. Et vraiment, il faut que les Français comprennent qu'en tirant les prix toujours vers le bas, ils tuent les agriculteurs. Tout le monde veut des agriculteurs, tout le monde aime les agriculteurs. On ne vivra que si on vend nos produits au juste prix. Alors, et ça, ce n'est pas le bon prix.
Christiane Lambert, un comité de suivi s'est d'ailleurs tenu, je crois, ce matin avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, vous, au gouvernement? Et je crois d'ailleurs que vous rencontrez le président Macron ce soir. Qu'est-ce que vous allez lui dire?
Alors, le ministre de l'Agriculture et Mme Pannier-Runacher de Bercy sont très fermes et ont lancé l'injonction aux distributeurs de changer d'attitude. Il y a ce qu'ils disent dans les réunions et il y a la pratique dans les box de négociation qui est tout à fait différente. Et au président de la République ce soir, je vais justement dire, vous vous êtes engagé pour les états généraux de l'alimentation avec un objectif, améliorer le retour de valeur aux agriculteurs pour tenir le revenu des agriculteurs et garder de la production en France. Le président de la République veut la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la localisation, la relocalisation d'activités de production en France. L'agriculture est en train de perdre des parts de marché. Un poulet sur deux qui est mangé en France est importé. Un fruit et légumes sur deux est importé. Est-ce qu'on va continuer avec des prix toujours plus bas pour mettre en faillite les exploitations et les industries françaises? Le président de la République a aussi une nécessité de réaffirmer qu'il tient à une activité de production agricole et de transformation agricole en France.
Bien, et on verra dans les prochains jours et prochaines semaines si le message est entendu. Merci Christiane Lambert, merci.
Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des idées, comment contenir la déferlante des attaques informatiques? En quelques jours, deux hôpitaux français ont été pris pour cible et contraints de déprogrammer leurs opérations chirurgicales, ce qui est très inquiétant évidemment, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. Et de plus en plus, ces pirates d'Internet s'en prennent aux entreprises pour les rançonner avec des logiciels particuliers, on va en parler. Et même les particuliers sont parfois visés. Alors que faire en cas d'attaque? Comment les prévenir? Comment s'en prémunir? Et pourquoi sommes-nous en apparence si vulnérables face à ces nouveaux brigands? On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Jérôme Bidois.
Bonsoir.
Vous êtes expert en cybersécurité au cabinet Weston qui a géré, je crois, une trentaine d'attaques de ce type l'année dernière. On en parle également avec Nicolas Arpagian. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à l'école de guerre économique et auteur du livre La cyber sécurité, sorti en 2017 aux éditions PUF. Et on en parle avec Alain Bensoussan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. Alors, ces affaires d'attaque de serveurs informatiques sont prises évidemment très au sérieux par les autorités car elles se multiplient, comme l'expliquait encore ce matin le secrétaire d'État au numérique, Cédrico.
En France, le nombre d'attaques générales, parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux qui sont concernés, hein, les collectivités territoriales, les TPE, PME, les individus, a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. On a eu 27 attaques d'hôpitaux en 2020. On en a une par semaine depuis début 2021.
Une attaque d'hôpital par semaine. On entendra tout à l'heure des témoignages d'ailleurs de patrons d'entreprises qui ont été victimes directement de ces attaques informatiques et on verra l'ampleur du phénomène et puis les implications que ça a aussi pour la gestion d'une entreprise au quotidien. Alors ce soir, c'est une annonce très importante. Le président Emmanuel Macron annonce une enveloppe d'un milliard d'euros justement pour se prémunir, on en parlera, et lutter contre ces pirates informatiques. Première question à Nicolas Arpagian. Qui sont ces cybercriminels qui attaquent nos entreprises, nos hôpitaux et nos institutions publiques? Est-ce qu'on sait qui c'est?
Alors, on a toute une gamme. C'est avant tout des activités alors essentiellement crapuleuses, c'est-à-dire que le but est de récupérer de l'argent avec un système de rançonnage.
Oui, c'est du rançonnage.
Voilà, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire une automatisation du processus entre l'envoi d'un logiciel malveillant, l'actionnement du chiffrement qui va rendre inaccessible toute ou partie des données et à ce moment-là, la proposition qui est faite de libérer les données, de fournir une clé de déchiffrement en échange du paiement d'une somme d'argent.
Mais c'est des groupes très organisés ou c'est des pirates individuels qui chacun dans leur
coin? En fait, c'est
une
industrie, c'est une organisation qui, en fait, au début, pouvait être ce qu'on qualifie d'asymétrique, c'est-à-dire quelques individus pouvaient déstabiliser une organisation de taille importante. Aujourd'hui, au regard de sa profitabilité, c'est devenu une véritable industrie avec des grands volumes, des zones géographiques couvertes et effectivement, et même certains qui vont aller pour essayer d'augmenter leur taux de transformation, c'est-à-dire entre le moment où vous envoyez un message de sollicitation pour payer la somme et que la personne visée paye effectivement même des centres d'appel, un peu comme on le connaît dans le marketing direct, de manière à insister, rappeler, de dire payer, il est temps, urgemment. Et on voit bien que c'est une industrie à part entière.
Alors pardon, je vais vous poser des questions évidemment de Candide, hein, des questions très, très naïves, mais on est aussi là pour ça, pour éclairer nos auditrices et nos auditeurs. Jérôme Bidois, on n'a pas moyen de les arrêter, ces gens-là, une fois qu'ils ont lancé une attaque informatique contre un hôpital, contre une institution, contre une entreprise? On ne peut pas les localiser et les arrêter?
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même qui ont été arrêtés récemment. On peut parler par exemple du groupe Netwalker ou encore du groupe Egregor où la police française a joué un rôle. Donc oui, c'est possible de les arrêter. Par contre, c'est très compliqué.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce que les cybercriminels savent se cacher sur Internet, ils masquent leurs traces, ils utilisent ce qu'on appelle des logiciels d'anonymisation. Et puis ensuite, ils savent aussi se localiser dans des pays où le cybercrime n'est pas toujours reconnu, où il n'est pas toujours facile de faire de la coopération policière. Et c'est des opérations complexes pour aller finalement les rechercher, les traquer et les amener en justice. Même si, et en plus, le problème, c'est qu'une fois qu'on va couper un groupe, vu les taux de rentabilité qu'évoquait Nicolas Arpagian, il y en a plein qui renaissent derrière.
Alors, il y a un outil, Alain Bensoussan, qu'utilisent particulièrement ces pirates du web, ce sont les rançongiciels. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ?
Bien, ce sont, en fait, comme l'a été dit, ils essayent de supprimer la possibilité pour une entreprise d'utiliser ces données.
Oui.
Et donc, on les crypte, on les cache, et pour pouvoir effectivement récupérer ces données, il faut payer des rançons. Et
pour des grosses rançons.
Et pour, en ce qui me concerne, puisque nous faisons énormément...
Votre téléphone étant en mode
avion. Ben c'est pas grave. vous êtes en train de vous faire hacker en direct.
Voilà.
Vous voyez
et donc, à ce niveau-là, les gens n'ont plus la possibilité d'utiliser leurs données.
Oui.
Et ils sont obligés de payer une rançon. Moi, ce que je leur dis, c'est ne payez pas la rançon. Parce que plus on paiera des rançons, plus il y aura des niveaux différents de délinquants, et délinquants de moins en moins spécialisés, qui tentent le coup. Et comme les systèmes informatiques ne sont pas faits pour résister, sont faits pour être exploités en position normale, travailler normalement, ils ne sont pas faits pour résister à des attaques de ce type, il y a une situation extrêmement grave.
Mais pardon, je repose la question, parce que j'imagine tous les gens qui nous écoutent là, se disent « Mais comment est-ce possible, Nicolas Arpagian, que dans la cinquième puissance économique mondiale, des hôpitaux, des mairies, des ministères, des grandes entreprises, hein, multinationales françaises arrivent à se faire hacker par deux, trois loustiques, pardon de le dire ainsi, aussi bon soit-il, qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous ?»
C'est le fruit de l'histoire. Le fruit de l'histoire, c'est la construction des systèmes d'information qui ont été au début protégé naturellement, un peu comme l'enfant que vous ne scolariseriez pas avant ses 6 ans et qui resterait à la maison. Il n'est en contact de personne, il n'attrape pas de maladie infantile. À partir du moment où vous le scolarisez, il est au contact et il va attraper, il n'a pas créé les immunités sanitaires. Et donc là, on est dans le même système des entreprises qui avant étaient...
Donc on est très vulnérables finalement.
Effectivement, parce que la structure d'origine n'avait pas été conçue pour cela. Maintenant, la force de l'économie numérique, c'est l'interconnexion entre des fournisseurs, des donneurs d'ordre, des partenaires, des autorités de régulation. Et donc, effectivement, on va démultiplier l'exposition technique. Et donc, la question maintenant, c'est de se dire, un, j'identifie les actifs que je compte protéger. Deux, je vais structurer mon organisation pour dire s'ils sont rentrés, par exemple, par ma messagerie, mon email. Eh ben, au pire, je n'aurai que mon système de messagerie qui sera chiffré, pas le reste. Et donc, ce cloisonnement.
Oui.
Et ensuite, des politiques très strictes et isolées techniquement.
Ça, c'est ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal,
sauvegarde.
Mais on n'y est pas aujourd'hui.
Oui,
si
mais justement, vous avez compris qu'une fois qu'on a touché du doigt la fragilisation du système, il est important d'adopter des règles, alors qu'ils sont connues, un peu contraignantes, mais qui permettent de se, faute de pouvoir empêcher l'attaque, de s'en prémunir le plus efficacement possible.
Alors, il faut dire aussi qu'avec les nouveaux systèmes, tout le danger vient du fait que les gens n'ont pas de sauvegarde séparée. C'est-à-dire qu'ils ont des sauvegardes au même endroit. Ce qui fait que les pirates, ils vous prennent votre activité et aussi votre sécurité. Et donc, un bon moyen déjà pour éviter ça, c'est d'avoir des sauvegardes à l'extérieur du système actif. Ça a l'air de rien, mais c'est un élément déterminant pour lutter contre les délinquants.
Alors, avant de parler des solutions, mais c'est important de les évoquer de prime abord quand même pour poser les enjeux du débat et de la discussion, Jérôme Bilois, concrètement, comment ça se passe quand on a été hacké cette rançon que nous demandent les hackers, comment est-ce qu'on la paie ?
Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe que d'un seul coup, vous arrivez devant votre ordinateur et plus rien ne marche. Le problème, ce n'est pas juste le vôtre, c'est tous ceux de l'entreprise, tous ceux de l'organisation. Et donc, au tout début, on est dans une phase de sidération qui dure 2 ou 3 jours, pendant lesquels, eh bien, tout le monde ne sait pas quoi faire, ne peut plus communiquer, ne peut plus agir. Et donc là, il faut s'organiser en mode de gestion de crise, avec la direction générale, avec des experts dans l'investigation, et des personnes
mais
qui vont...
Mais le logiciel sur son écran, il nous demande de payer une somme.
Voilà, et donc la cellule de crise va regarder cette rançon et se dire finalement, est-ce que je dois la payer en mon âme et conscience ? Et donc après, certains, c'est à peu près 20% des cas qu'on a traités, la payent. Heureusement, 80% ne la payent pas parce que la plupart du temps, on a des sauvegardes, comme l'évoquait Maître Bensoussan, mais on a aussi une capacité finalement à faire repartir l'entreprise et payer ne va pas accélérer la gestion de crise. Ça, c'est un point très important.
Alors, on est justement en ligne avec Patrice. Bonsoir Patrice, qui nous appelle de Sommières.
Bonsoir.
Qui a été victime, je crois, de deux cyberattaques dans une PME en région parisienne. Absolument. Patrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont les choses se sont passées très simplement ?
Eh bien, c'est très simple. En fait, nous étions dans l'entreprise devant nos ordinateurs. Et tout d'un coup, vers 10h du matin, en pleine activité, sans que personne ne soit ni sur un site particulier, ni n'ouvre une pièce jointe, rien du tout, un écran rouge s'est allumé avec un gros warning qui nous a indiqué « Vos fichiers viennent d'être cryptés, vous ne pouvez plus y avoir accès, voilà les modalités, vous devez payer une rançon en Bitcoin. »
Combien ? Combien cette rançon ?
Alors, en l'occurrence, ce n'était pas une somme très élevée. Ça devait être équivalent de 3 000 euros aujourd'hui, mais payable en Bitcoin avec un lien pour pouvoir la racheter.
Est-ce que vous avez payé par conséquent ?
Non. En fait, jamais. La première chose à faire, c'était déjà de débrancher tous les ordinateurs du réseau pour essayer d'isoler ceux qui éventuellement pouvaient être sauvés.
Oui.
La réalité, c'est donc que tout était déjà infecté, que voilà, il n'y avait rien à faire. Et donc, le réflexe a été cette histoire de sauvegarde. En fait, on a une sauvegarde à J-1 et une qui est sur l'ordinateur en direct. Et donc, de voir ce qu'on pouvait faire, on a tout essayé de débloquer. J'ai un informaticien qui est venu et qui m'a dit, en fait, il n'y a juste rien à faire.
Et est-ce que vous êtes parvenu, à l'issue de tout ça, à récupérer les données qui avaient été piratées ?
Alors, la sauvegarde a fonctionné. On a été obligé de tout écraser sur tous les ordinateurs. C'est-à-dire que sans sauvegarde, on ne récupérait rien du tout.
Donc ça a quand même sacrément paralysé l'entreprise, j'imagine.
En fait, on a perdu une journée entière. Alors, très peu pour certains. J'ai un confrère qui a perdu 8 jours. Voilà. Mais je dois dire qu'en fait, ce qui m'a le plus surpris, finalement, c'est de penser qu'une toute petite entreprise d'une douzaine de personnes pouvait être touchée par une cyberattaque aussi violente.
Mais merci infiniment, Patrice, pour ce premier témoignage. Réaction Jérôme Bilois. Ça s'est bien terminé pour ce monsieur. Hein. C'est plutôt une petite attaque, mais c'est vrai que ça peut s'attaquer à des entreprises type PME, 12 salariés, comme le disait ce monsieur.
Oui, alors tout le monde aujourd'hui est la cible. Là, on voit un cas positif avec une sauvegarde. En un jour, on était reparti. Ça, c'est dans le très bon. Le délai moyen d'interruption qu'on a observé, nous, de crise, c'est 3 semaines pour des grandes entreprises. Donc pendant 3 semaines, vous n'avez plus le système d'information qui fonctionne et vous en revenez au papier, au crayon. Vous appelez vos fournisseurs, vous appelez vos clients. En plus, les gens ne veulent plus travailler avec vous après parce qu'ils ont peur que vous leur repassiez l'attaque. Donc, ça fait un vrai effet de domino qui, derrière, impacte fortement la vie de l'entreprise.
Bien, on continue d'en parler dans quelques secondes, 19h28. Vous restez avec nous avec d'autres témoignages de patrons d'entreprise qui ont été touchés. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
On est à 19h30 dans le débat du Club des Idées. On continue de parler de ces cyberattaques. La déferlante, en quelques jours, plusieurs hôpitaux français ont été pris pour cible, ce qui a contraint les opérations chirurgicales à être déprogrammées. Ça perturbe considérablement le fonctionnement des institutions, des hôpitaux, mais aussi des entreprises, on l'a entendu avec notre premier témoignage. Et on va en écouter d'autres, des témoignages dans quelques secondes. Nicolas Arpagian, vous êtes toujours avec nous, enseignant à l'École de guerre économique, auteur du livre « La cybersécurité » aux éditions PUF. Précisons que ces cyberattaques, ça peut aussi maintenant toucher les particuliers. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui se disent « Qu'est-ce que je fais, moi, si demain je suis piraté, qu'on me demande une rançon ?»
Alors déjà, la règle, effectivement, la recommandation, c'est plutôt de ne pas payer. Alors comme l'a dit votre auditeur précédemment, deux choses. Il a décorrélé la date, et parce qu'effectivement, le moment où il a dit on était en pleine journée, paisible, pourquoi ? Parce que l'intégration dans le système peut avoir remonté à plusieurs heures ou à plusieurs jours, et donc c'est pas comme quand vous avez un choc et que vous avez la douleur immédiatement.
Oui.
La deuxième chose, c'est le montant. C'est vrai que souvent, alors 3 000 euros, c'est une somme à n'en pas douter, mais pour une PME, ça reste quelque chose où on peut accéder à ce montant. Et c'est vrai que le pirate fait aussi un montant où il a intérêt à ce qu'on puisse envisager de payer de manière à ne pas porter plainte et espérer qu'on va résoudre la situation par le paiement de la somme.
Mais je reviens à ma question. Si je suis un particulier, d'abord, est-ce qu'il y a...
cybermalveillance.gouv.fr.
Comment ils rentrent dans mon ordinateur ?
Ça peut être un email, pièce jointe infectée. Lorsque vous avez l'habitude d'utiliser des emails pour des opérations marketing, pour aller sur des sites internet sur lesquels vous laissez vos coordonnées. Et puis également le piratage de base d'email. Et donc effectivement, on va vous envoyer un message qui aura l'apparence de la vérité, ou en tout cas du sérieux. Hein, livraison sur un site de commerce en ligne, quelque chose, une démarche administrative, de manière à vous inciter à cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe, c'est en général pour les particuliers le vecteur d'infection prioritaire.
Alain Bensoussan, vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. Si jamais, par malheur, on ouvre cette pièce jointe, on ouvre ce fameux mail, qu'on est infecté, qu'on a une demande de rançon. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que particulier ?
Alors, en tant que particulier, à part repartir de la sauvegarde, si on en a une, c'est perdu. Porter plainte, mais en général, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, c'est vraiment, si on doit donner aujourd'hui une recommandation, c'est d'avoir une sauvegarde. C'est toujours d'avoir une sauvegarde à l'extérieur, effectivement, du système dans lequel on peut pénétrer par ce phishing.
On dit aussi, parce que je voudrais qu'on reste encore un mot sur les particuliers, on dit aussi qu'il y a parfois du chantage à la révélation d'informations privées, d'informations confidentielles, des photos, des petits secrets qu'on pourrait avoir et que les pirates arrivent à trouver dans nos ordinateurs. C'est courant, ça ?
Alors là, vous avez tout à fait raison, parce qu'on parle toujours de la rançon logicielle par, effectivement, cryptographie, c'est-à-dire qu'on vous empêche d'utiliser vos données. Mais très souvent, c'est doublé d'une deuxième opération qui est en fait la première, qui est de transférer toutes les données qui étaient en clair, qu'on aspire tout dans l'ordinateur. Et puis parfois même, quand vous fermez, il y a encore la possibilité de laisser ce qu'on appelle un dormant, c'est-à-dire vous croyez que vous êtes libre, que vous avez recommencé votre sauvegarde, et sur le dormant, il se réveille, et cette sauvegarde est elle-même effectivement cryptée. Donc vous avez les trois actions qui vous met dans une situation de tension très très grave.
C'est pas très rassurant ce que vous nous dites, Jérôme Millois, vous êtes expert en cybersécurité, vous avez géré, je crois, une trentaine d'attaques de ce type l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'on évoquait en début d'émission que le nombre de ce type d'attaques a été multiplié par 4 en 2020 par rapport à 2019. La nouveauté, ce sont ces hôpitaux qui sont maintenant ciblés. C'était assez rare par le passé. En réalité, si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai raison, si j'ai bien compris, les pirates informatiques, les hackers profitent de la situation sanitaire assez perturbée où les hôpitaux ont besoin de fonctionner évidemment à plein pour soigner les malades du Covid, pour s'attaquer à ces hôpitaux et pouvoir éventuellement avoir une rançon relativement rapidement. C'est ça le principe ?
Alors ça, c'est une des clés, effectivement, de la compréhension de l'attaque sur les hôpitaux. La deuxième des clés, malheureusement, c'est que beaucoup d'hôpitaux à l'étranger ont payé des rançons. Un hôpital dans New Jersey, l'année dernière, en fin d'année dernière, a payé 600 000 dollars à ses cybercriminels.
600 000 dollars ? Oui. C'était impossible de faire autrement ?
Oui, oui. Pour eux, en tout cas, je ne sais pas, je n'étais pas chez eux. Je pense qu'il y aurait peut-être
des solutions. Le régime juridique n'est pas le même. Mais... C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez des stratégies d'assurance, vous avez une logique procédurale que connaît bien Maître Benoussoussan, qui est qu'il y a un régime de responsabilité où vous dites, après tout, je vais essayer de revenir à une situation normale.
Dans les hôpitaux. En tout cas, les cybercriminels, eux, ne le voient pas. Ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'ils attaquent les hôpitaux.
Mais ça peut paralyser un hôpital
entier, bien sûr.
Donc ça a mis en danger la vie des patients aussi.
Parce que les hôpitaux, aujourd'hui, dans leur sécurité numérique, on paye un sous-investissement d'une dizaine d'années. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais on a un cocktail dans les hôpitaux de sous-investissement et un cocktail qui est compliqué parce que vous avez plein de choses connectées sur les réseaux des hôpitaux, le scanner, l'IRM, les systèmes de stérilisation, les systèmes dans les laboratoires, qui sont des systèmes vendus clé en main qu'on ne peut pas toujours bien sécuriser. Et donc ce mix fait qu'on est dans une situation qui est compliquée pour le système de santé.
Alors il y a aussi des institutions, je le disais tout à l'heure, les hôpitaux en sont un par exemple, en sont une institution, et puis il y a les villes, les municipalités, c'est le cas à Marseille où c'est arrivé. Bonsoir Christophe Hugon.
Oui, bonsoir.
Vous êtes conseiller municipal délégué à la transparence et au système d'information et numérique municipal de la ville de Marseille, et vous avez fait l'objet d'une cyberattaque, je crois que c'était en mars dernier, qui a été réalisée dans l'ensemble de la zone métropolitaine.
Alors, pas tout à fait dans l'ensemble, c'est une attaque qui a été assez ciblée. En fait, c'est passé par des partenaires de confiance, justement, à la métropole, et redescendu sur la ville de Marseille le 14 mars, en fait, la veille du premier tour des élections municipales.
Oui, au mauvais moment, évidemment. Est-ce qu'on vous a demandé une rançon ?
Alors, oui, il s'agissait d'un rançon logiciel, donc qui a été détecté dès 3h du matin le 14 mars. La réaction a été très rapide, hein. On n'a pas eu de période de sidération. En l'occurrence, à 9h du matin, les équipes étaient déjà en train de couper les réseaux pour justement sauver le maximum. Donc, je pourrais donner quelques détails. Donc la somme, je sens que vous allez me demander la somme, je ne la connais pas pour une raison très simple, c'est qu'on ne paye pas ces rançons, ça a été dit durant cette émission, parce que c'est financé finalement ces attaques.
Christophe Hugon, c'est financé ces attaques, ça on va en parler, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Simplement, comment vous l'avez détecté à 3h du matin, cette attaque informatique ?
Alors, ça a commencé par le téléphone. En fait, le téléphone a été coupé, les équipes ont tout de suite essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des services finalement qui ne fonctionnaient plus, qui sont allés sur site et ils ont constaté effectivement que sur les serveurs, il y avait une compromission physiquement.
Oui. Il y avait une compromission. Donc, Et vous avez réussi à sauver toutes les informations et toutes les données confidentielles, j'imagine, qui étaient celles de la municipalité, oui, des services attaqués.
Quasiment. Donc, il y a le système de backup, donc de sauvegarde qu'on utilise à la ville. On utilise notamment des méthodes de sauvegarde inhomogènes, c'est-à-dire sur des systèmes d'exploitation différents, ce qui permet de se protéger de ces attaques. Ouais. Et donc, on a pu préserver la quasi-totalité des données, justement, grâce à ça.
Bien. Heureusement, bravo à vous. Merci, Christophe Hugon, pour ce témoignage en direct de Marseille. Peut-être une réaction, Jérôme Billot, expert en cybersécurité. Il y a un élément qu'a dit ce conseiller municipal qui est intéressant, ce sont des attaques financées. Et d'abord, est-ce que c'est vrai? Et si oui, par qui?
Alors, elles sont financées par les cybercriminels eux-mêmes. Je peux vous citer un exemple très concret. Il y a une plateforme, un cartel qui s'appelle Ryuk, créé mi-2018. Première année, ils commencent leurs attaques, ils font 3 millions de dollars de rançon. L'année d'après, ils ajoutent 60 millions de dollars de rançon. Et là, en cumulé depuis qu'ils existent, donc en 2 ans et demi, on est à 150 milliards de rançons récupérées.
150 milliards
Pardon, 150 millions. Millions. Je me suis emballé. Mais 150 millions, vous voyez quand même les sommes qu'ils ont réussi en commençant petit. Et malheureusement, parce que beaucoup trop de structures
payent. Ils n'ont jamais été interpellés.
Alors,
jamais.
Non, pas encore. Je dis pas encore parce qu'on espère qu'ils vont l'être à un moment ou à un autre, comme d'autres groupes l'ont pu l'être. Mais ils ont les moyens de se protéger. Et ils ont les moyens de continuer leurs attaques de manière de plus en plus poussée. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui.
Alors, on dit beaucoup, Alain Bensoussan, que certaines de ces attaques de grande ampleur qui touchent des groupes internationaux seraient téléguidées d'une certaine manière en sous-main par l'ex-bloc de l'Est. On pense à la Russie, on pense à ces pays satellites. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas?
Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre, que ce soit la guerre économique, où la guerre politique, elle passe aujourd'hui par l'Internet et par les logiciels. Et donc, on l'a vu dans les affaires autour du Moyen-Orient, il est évident qu'aujourd'hui, les rançons logicielles sont un des éléments des guerres que les entreprises peuvent faire entre elles et les États. Mmh. Et elles continueront. Ça sera de plus en plus parce que le système est sans frontières et qu'on peut pénétrer très, très facilement dans, et c'est fait à partir de pays dans lesquels la législation, parfois, est très faible et que la possibilité d'agir juridictionnellement est aussi faible. Et c'est ces deux faiblesses qui font qu'on va continuer à subir ces attaques de l'étranger.
Quelles sont les plus grandes attaques récentes, Jérôme Billot, auxquelles les entreprises ou les pays ont dû faire face?
Alors, les plus grandes attaques, j'endosse la personnalité de Jérôme avec bonheur. La question de... La formation, vous voyez, c'est l'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai réussi à
vous le faites très bien.
Merci pour le compliment. La question, en fait, c'est surtout que tout dépend de l'impact. C'est-à-dire que vous voyez que c'est pas forcément... ça dépend de ce qu'on va vouloir atteindre. On a eu le cas, effectivement, de municipalités dans l'ouest de la France où l'état civil a été menacé d'être publié, donc des données personnelles. On a le cas des hôpitaux avec des retards, des aménagements. On va avoir des pertes financières pour des entreprises, cas d'une entreprise qui avait effectivement des pénalités de retard à verser à ses clients et en fait, elle a hélas payé parce qu'elle trouvait que, effectivement, dans son équation financière. Donc, effectivement, tout dépend de ce qu'on a chacun à perdre dans cet événement et dans la capacité de restaurer. Il y a toujours cet espoir, souvent vain, de revenir à une situation normale si on payait la rançon. Évidemment, le pirate n'est pas du tout dans cet état d'esprit bienveillant.
Alors, on se retrouve dans quelques secondes avec un nouveau témoignage, celui de Julie qui a été victime de cyberattaque à deux reprises, en 2016 et en 2019. Elle sera avec nous pour en parler dans un instant. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est donc en ligne avec Julie, victime de cyberattaque, je le disais, à deux reprises, en 2016 et 2019. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir et votre témoignage est très intéressant. On parlait des attaques à destination des particuliers. Eh bien, vous en faites partie puisque c'est votre ordinateur personnel et professionnel, je crois, qui ont été attaqués. Vous avez reçu un mail quasiment identique à vos adresses mail. Vous avez cliqué et vous vous êtes aperçu immédiatement qu'il était trop tard. Vous aviez fait une bêtise, que le virus était entré dans le système informatique. C'est cela?
Tout à fait, effectivement, oui.
Et que s'est-il passé? Qu'avez-vous découvert à ce moment-là?
En fait, j'ai cliqué donc sur ce mail qui m'est arrivé. Et au moment où j'ai cliqué, j'ai pensé que c'était pas terrible. Du coup, j'ai tout éteint. Au moment où j'ai rallumé mon ordinateur, j'avais un écran bleu qui me disait en fait que toutes mes données avaient été cryptées.
Oui.
Et une rançon d'environ 2000 euros m'était demandée pour pouvoir décrypter ces données.
Ah oui. Et vous avez payé?
Pas du tout.
Non. Qu'avez-vous fait?
Non, dans un premier temps, j'étais un peu désespérée. J'ai appelé mon informaticienne qui m'a dit qu'on avait une sauvegarde au 31 décembre 2015, donc soit 8 mois plus tôt.
Parce qu'il y avait, coup, plein de choses dans, il y avait plein de choses dans cet ordinateur. Il y avait des devis, des factures, des documents fiscaux, toute la comptabilité de votre activité professionnelle et puis aussi des choses plus personnelles, j'imagine.
Exactement, il y avait tout ça, plus des photos, des souvenirs, enfin, tout ce qu'on peut avoir dans un ordinateur et professionnel d'une petite structure et à la fois personnel.
Vous avez porté plainte ?
Oui, j'ai porté plainte donc sous X en fait.
Oui. Et il s'est passé quelque chose d'assez, quelque chose d'assez incroyable, c'est que contrairement à ce qui a pu être dit, ben il y a eu une suite à cette affaire. Je crois que vous avez été recontacté par la gendarmerie près de 3 ans après. C'est en juin dernier, et votre dossier a été réouvert car ils avaient retrouvé la personne, ce qui est assez, assez rare, à l'origine de cette cyberattaque. Est-ce que vous pouvez raconter ça ?
Oui, oui. Ben, en fait, j'avais reçu déjà un premier courrier du tribunal m'indiquant en fait en janvier 2017 que l'affaire était classée parce que ils n'avaient pas retrouvé la personne. Donc bon. Ce que je me doutais fortement, puis j'ai eu la surprise là au mois de juin de recevoir un autre courrier du tribunal de Paris.
Oui.
En fait, m'indiquant qu'ils avaient retrouvé la personne qui avait créé le logiciel malveillant et qui souhaitait savoir si je souhaitais me porter partie civile. Donc, ce que j'ai fait avec l'aide de mon avocate, Maître Marie-Dominique Costa.
Est-ce que cette personne, d'abord, est-ce que le procès est terminé ? Est-ce que cette personne a été condamnée à votre connaissance ?
Alors, le procès est terminé, effectivement, là, depuis le mois de décembre. Par contre, je n'ai pas encore reçu les conclusions.
Bien, très intéressant. Merci infiniment, Julie, pour ce témoignage. Peut-être une réaction à Alain Bensoussan. Vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique. C'est assez rare, hein, que le cyber-attaqueur soit retrouvé. Alors, je précise, hein, puisque j'ai l'histoire sous les yeux, il est russe. Et il est soupçonné d'avoir opéré via un rançongiciel qui s'appelle Loki. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Et donc ce monsieur a été interpellé et il était responsable visiblement de plusieurs dizaines de piratages de logiciels en France à des personnes individuelles. Est-ce qu'on sait pourquoi il cible tel ou tel ou est-ce que c'est du hasard ?
Non, en général, il cible au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des campagnes, ce qu'on appelle de phishing. C'est-à-dire qu'ils envoient des mails et des mails et des mails. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui prend. Et à ce moment-là, la personne...
Et comment ils récupèrent tous ces mails ?
Il les récupère sur le dark web.
Où ils sont volés. Des listings de mails.
Des centaines et des milliers avec les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les codes d'accès et bien évidemment... tous les éléments d'information associés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un particulier, et ça s'est bien terminé, il n'y a pas de conséquences pour vous. Vous êtes victime et vous restez en position de victime. Mais lorsque vous êtes une entreprise et que les éléments ont été absorbés, c'est-à-dire que non seulement vous êtes bloqué, mais en plus, avant, toutes les données sont parties sur le dark web. Vous devez faire une déclaration à la Commission nationale informatique et liberté dans un délai de 72 heures. C'est-à-dire vous devez... immédiatement informer l'autorité de régulation. Et dans ce cas, si votre système de sécurité n'était pas au niveau de l'état de l'art qu'on attend, vous allez vous retrouver, vous, en position d'accusé. Et donc, la victime, ici, est dans une situation très particulière.
Jérôme Bilois, réaction au témoignage qu'on vient d'entendre. C'est assez rare que le hacker soit arrêté, mais parfois, ça arrive.
Ça arrive,
c'est une lueur d'espoir quand même. Alors je sais que c'est très très rare, mais bon, ça prouve que quand même parfois la gendarmerie et la police arrivent à remonter jusqu'aux pirates.
Clairement, il y a des très belles histoires ces temps-ci. Ça s'accélère même la pression sur l'écosystème de la cybercriminalité. Nos services de police et le parquet de Paris en particulier sont vraiment mobilisés sur ces sujets-là. L'investigation, elle est longue et compliquée. C'est pour ça que là, on parle de 3 ans. À la fois parce que c'est techniquement compliqué. Il faut aller à l'étranger, il faut faire des demandes de coopération. Et puis aussi parce que nos effectifs sont malheureusement en France, en particulier au niveau de la justice, assez réduits. C'est peut-être d'ailleurs un des angles morts de l'annonce du président Macron aujourd'hui. C'est quand même qu'il n'y a pas d'annonce qui vise un renforcement de la justice, alors que je pense qu'on en aurait besoin sur ces sujets cyber.
Vous avez eu le temps de regarder, Nicolas Arpagian, ce qui était proposé par cette enveloppe. 1 milliard d'euros, ça paraît beaucoup d'argent. Voilà, à quoi ça va servir ?
C'est pas 1 milliard de cash. Par contre, vous voyez que le chantier de la cybersécurité, c'est un chantier par tranche. C'est-à-dire qu'il faut investir sur la formation, de manière à ce qu'on ait des têtes bien faites, fait, et donc des personnes. Donc il faut investir dans des cursus pour qu'on augmente les divisions de cybercombattants, civils ou militaires, mais qu'on expertise. Deuxièmement, il va falloir investir le champ de l'innovation des entreprises, parce que aujourd'hui on est dans une situation où il y a quand même un leadership, une domination d'acteurs extra-européens dans le domaine de la cybersécurité. C'est pas totalement satisfaisant. Troisième chose, effectivement, alors la réglementation, et le président Macron l'a exprimé, c'est d'obliger les établissements de soins à passer de 5 à 10% de leur budget informatique en cybersécurité. Donc, il y a une espèce de dynamique. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'engagement du président de la République fait qu'on sort de la sphère des techniciens. On sort de la sphère des gens d'informatique et des gens de sécurité ou de défense. On en fait un sujet national. Oui. Par contre, évidemment, il y a un investissement à faire.
On a vu que l'enjeu est national. Il a
raison. Bien sûr, vous avez raison. Mais par contre, voyez ce que vous évoquez avec le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte va permettre de documenter, de comprendre que ce phénomène n'est pas isolé, mais qu'il fait partie d'une dynamique, et donc va permettre de chiffrer sur des volumes plus importants et donc de justifier les procédures de coopération policière et judiciaire internationale. Par contre, effectivement, d'ailleurs, le parquet de Dax, dans le cadre de l'hôpital, a assez rapidement, alors il y a une compétence nationale du parquet de Paris sur ces sujets, mais a transféré à la section J3 du parquet de Paris, parce qu'effectivement, et ce n'est pas l'idée de faire tout remonter à Paris, c'est juste qu'il y a l'expertise et on permet d'avoir une vision un peu plus macro-économique, en quelque sorte, du phénomène, et donc d'avoir une perception plus large et nationale du sujet.
Dites-moi, en préparant cette émission, j'ai lu que n'importe qui, maintenant, d'un peu débrouillard, pouvait se procurer. Alors, je n'ai pas envie de donner des mauvaises idées, mais on n'a que des auditeurs qui sont bienveillants, donc il n'y a pas de problème. Mais non, blague mise à part, qu'on pouvait se procurer ces logiciels de rançon pour 1 500 $, parfois même moins de 100 $. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. Il y a un écosystème cybercriminel qui s'est créé avec
donc,
des plateformes.
Donc, n'importe qui peut devenir un pirate
du
numérique.
Quasiment. Alors, il faut quand même vouloir rentrer dans des cercles mafieux. Attention, hein, parce que quand vous commencez à acheter et puis à faire, on va vous demander des comptes, etc. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes. On peut citer la plateforme Reveal, par exemple, qui embauche 10 développeurs toute la journée. C'est des gens qui vont créer des outils d'attaque et finalement qui, après, vont les louer à des petites mains.
Et ça, c'est pareil, on n'a pas les moyens de les interdire.
Ah, mais c'est pareil, il faut les trouver, aller les chercher, et ils se protègent.
Et ils ont de l'argent pour se protéger. Technique. Et ils ont une mobilité technique, parce qu'on évoquait la procédure et le droit et le code de procédure pénale. Les gentils sont soumis à des règles de procédure pour avoir la robustesse de leur démarche. Voilà. Et les méchants bénéficient de toute la fluidité du numérique et de toute la mobilité. Et en plus, ils ne sont pas là pour créer des commerces durables, ils sont là pour gérer, optimiser des gains et réduire leur exposition aux investigations internationales.
Alain Bensoussan, sur ce point.
Mais sur ce point, il faut tout le temps porter plainte. Il faut jamais payer la rançon et il faut toujours avoir une sauvegarde. C'est-à-dire que quelque part, la meilleure façon de se protéger, on ne peut pas fermer sa porte informatique. Et aujourd'hui, l'informatique, elle est partout. Et donc, il faut mettre en place des protections. Et la position, je crois, du président de la République est intéressante, en ce sens qu'elle a fait ça, un débat national, une question nationale. Mais peut-être aussi, il faudrait renforcer notre façon de réagir contre ces pirates en modifiant peut-être la procédure et peut-être aussi en sanctionnant de manière encore plus importante la situation.
Et question connexe, mais les mots de passe, ça a son importance ou dans ce cas de figure, pas du tout ?
Ah si, ça a beaucoup.
Plus on les complexifie, moins on a de chances de se faire hacker ?
Ben oui. Et en général, malheureusement, ils sont très très faibles. Et les gens mettent toujours le même, ce qui fait que quand vous êtes piraté sur un des comptes, ben on peut vous pirater sur tous les autres comptes. Ça, c'est une situation aussi grave. La pédagogie est aussi une bonne façon. Il y a le droit, la pédagogie et la technique.
En fait, l'enjeu n'est pas toujours d'essayer de les complexifier, parce qu'à la force, on ne se souvient jamais, mais c'est de bien les gérer. Et donc, il y a des outils aujourd'hui pour bien les gérer. Ça s'appelle des coffres-forts de mots de passe.
Oui, mais on ne peut pas se faire pirater le coffre-fort.
Si, mais pour le coffre-fort et le mot de passe du coffre-fort, là, vous allez pouvoir faire un effort sur un mot de passe très compliqué. Oui. Et ensuite, dessous, vous n'aurez pas à mémoriser tous les autres. C'est ce qui permet de passer à l'échelle, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, on en a 50, 60, 70 des mots de passe. Il y a même une autre astuce que je peux donner à vos auditeurs, c'est de mettre n'importe quoi comme mot de passe. Et quand on a besoin d'accéder à un site web qu'on accède peu, ben c'est de faire la procédure « j'ai perdu mon mot de passe ».
C'est vrai que ça nous arrive souvent. Ça,
et
parce
ça,
qu'on
c'est
oublie
très pratique. Et en fait, le mot de passe le plus sûr à avoir, c'est celui de sa messagerie, sur lequel il faut ajouter le code à avoir en plus. C'est ce qu'on appelle l'authentification multifacteur. Techniquement, vous pouvez le trouver. Et ça vous, en plus du mot de passe, vous allez avoir ce code. Et ça sécurise énormément votre messagerie. Et vous pouvez ensuite oublier les autres mots de passe.
Bien, merci pour ces bons conseils. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés avec les auditeurs et les auditrices d'Europe Soir sur cette problématique importante des cyberattaques. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec les archives d'Europe Soir, comme tous les jours à cette heure-ci, 3 minutes pour comprendre quand le passé éclaire le présent, ça s'appelle le jour.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Et ce soir, on vous a réservé un petit cadeau, de l'humour et de la rigolade. C'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Julien.
Alors c'était il y a 46 ans, un immense artiste faisait ses tout premiers pas sur scène à l'Olympia. Un homme qui a beaucoup compté ici à Europe 1, c'est Coluche. Nous sommes donc le 18 février 75, Coluche est dans sa loge et dans quelques minutes, il va dynamiter l'humour français.
Oui, dans la salle, les derniers spectateurs s'installent. Ils sont venus voir celui qu'ils ont découvert quelques mois plus tôt, le 5 mai 1974. Ce soir-là, la France entière est devant sa télé, encore en noir et blanc pour beaucoup, et attend le résultat du second tour de la présidentielle opposant Giscard à Mitterrand. Le dépouillement traîne, il faut meubler. Alors, les sketchs et les chansons s'enchaînent. Soudain, un certain Michel Colucci, dit Coluche, apparaît pour sa grande première. En direct et en public.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend l'air d'un con. Hein.
45 ans après, ça marche toujours aussi bien, Victor.
Et oui, parce que dans une France encore bien timide, il fait l'effet d'un coup de tonnerre avant Coluche. On rit avec Fernand Reynaud ou des calembours de Raymond Devos. On se régale des imitations de Thierry Leluron. Mais Coluche, lui, ose, il casse les codes, il s'attaque à tout et n'a peur de rien, ni même de la censure.
C'est vrai. Et moins d'un an plus tard, il va donc remplir cette belle salle de l'Olympia.
Et l'histoire démarre avec Europe numéro 1. La veille, nous sommes chez lui. Coluche revient d'une tournée en province. L'Olympia, c'est grand, il ne faut pas se rater.
L'Olympia, c'est une consécration pour confirmer finalement le succès qu'on a eu par le disque et puis qu'on a trouvé en province. Comme c'est une consécration et qu'on le fait uniquement pour l'étiquette, l'Olympia, si on rate son coup, on se ramasse la gueule, c'est tout.
Voilà, et ça devient très vite une incroyable histoire d'amour entre Coluche et les Français.
Qui ne va pas se démentir jusqu'à la fin parce que Coluche tape sur tout le monde, les riches, les chômeurs, les journalistes. Et surtout, les politiques. Dans sa salopêtrier et son t-shirt jaune, il n'épargne personne dans cette France post-68.
Monsieur le merdier en plus en France, on est tout le temps en train de voter, puis quand on vote pas, ils nous sondent. Non, avec des journaux. Remarquez, le résultat est le même, on est un peu dans le cul quand même. Hein.
Les années 70, c'est aussi l'avènement de la pub à la télé, à la radio, dans les journaux. Il va en démontrer l'absurde, comme dans ce sketch devenu culte sur la lessive.
Le nouvel homo, ça lave la tache qui est cachée dans le nouveau torchon. Mais il est bien, hein, le torchon, il est propre après. Et aussi propre qu'avec l'ancien homo sans faire le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud. C'est-à-dire celui, tu l'es, celui qui a 5 kilos de linge, il fait les nœuds le lundi. Il fait la lessive le mardi, puis après il y a la semaine pour défaire les nœuds. Hein. Parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein.
Ces cultes, Coluche n'hésite pas non plus à s'emparer du racisme et des violences policières. Rien ne l'arrête, grimé en gardien de la paix, il ne retient pas ses coups.
Et puis il y a les appariteurs, c'est les mecs payés par la police en civil. Ils cassent les carreaux, après on dit que c'est les étudiants, tout ça, alors on est obligé de faire vachement gaffe. Hein. Et une fois c'est arrivé, on a tapé sur un flic. Ils ont dit que c'était une bavure. T'aurais vu la gueule de la bavure, ouais.
C'est vrai que ça marche toujours. Coluche sera aussi l'inventeur de la revue de presse.
Oui, bien avant Guy Bedos ou Gaspard Proust, Coluche délecte des perles qu'il trouve dans les journaux.
Super bénéfice de deux sociétés françaises. Ah, la BP et la Shell. Ah. 4 fois plus de chiffre d'affaires en 79 qu'en 78. Eh ben, ils vont être contents, les pauvres, de savoir qu'ils habitent un pays riche. Hein.
Coluche, papa des Restos du Cœur, s'est scénarisé pour Ciao Pantin, restant au sommet jusqu'à sa tragique disparition en 1986. Aujourd'hui encore, dans toutes les enquêtes, il reste loin devant l'humoriste préféré des Français.
Bien, et vous nous avez fait partager ce bel humour. Merci à vous, Victor Chabert. Vous revenez quand vous voulez pour parler de Coluche, parce que c'est vraiment
avec plaisir,
un régal. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, le rappel de l'info, Julien Pierce, comme chaque soir, et puis la musique avec Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Julien.
Quel est le programme ce soir de ton émission?
Alors ce soir, on est dans l'actu et dans l'attente de nouvelles de nos amis, les patrons de festivals qui ont été reçus cet après-midi par Roselyne Bachelot au ministère de la Culture. Alors, Jérôme Tréorel, le patron des Vieilles Charrues, va venir nous voir pour nous dire ce qu'on peut espérer.
Avec des bonnes nouvelles, on l'espère.
Oh oui alors. Est-ce que t'es là les charrues? Ça, c'était quelque chose, hein. C'est le concert de Suzanne aux Vieilles Charrues il y a 2 ans, c'était dingue.
C'est vrai que ça nous manque, ça. Des gens, de la musique, un beau concert, un beau festival.
Des gouttelettes, Julien, des gouttelettes.
Des gouttelettes de sueur, collées serrées.
Exactement.
Merci, Émilie.
Merci beaucoup.
Très bonne soirée, on attend donc des bonnes nouvelles. Merci de votre fidélité. Demain, à cette même place et ce même micro à 18h, Isabelle Millet pour le 18-20. Bon week-end.
Europe 1, écoutez le monde changer.